Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Combiner crédibilité et curiosité.
Mario Dumont.
Cube Radio.
Alors, le nouveau médicament, un nouveau nom qu'il faudra apprendre, le Paxlovid, qui est déjà utilisé aux États-Unis et quelques endroits en Europe. Santé Canada avait ça à l'étude depuis le 1er décembre. Les documents de Pfizer avaient été déposés le 1er décembre. Et c'est ce matin que Santé Canada a donné le feu vert. Et il y a quelques minutes, en début d'après-midi, le ministre Jean-Yves Duclos a confirmé que le Canada en a déjà reçu. Bon, pas une énorme cargaison, on parle de quelques 30 000 en fin de semaine. On attend plusieurs dizaines de milliers d'autres au cours des jours et des semaines à venir. Docteur Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au CHUM, est avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Dumont.
Bon, un rappel, les gens viennent mêler avec qu'est-ce qui est quoi, là. Il y a le vaccin pour renforcer notre système immunitaire à tous pour affronter le virus. Là, dans ce cas-ci, on a un médicament qui s'adresse à des gens qui ont attrapé la COVID, là.
Oui, exactement. Donc, il en demeure pas moins que le vaccin, c'est quand même l'outil majeur, le meilleur outil pour nous empêcher d'attraper la COVID et surtout nous empêcher d'en faire une forme grave, d'être hospitalisé ou d'en mourir. Mais ce médicament-là est un excellent nouvelle addition à notre arsenal thérapeutique, dans le sens que quand les gens, malgré tout, se font infecter, parce qu'il y en a qui répondent pas bien au vaccin, par exemple les gens qui sont immunosupprimés, les gens plus âgés et qui ont beaucoup d'autres maladies, ben ils sont plus à risque de faire une maladie grave. Alors, si on donne ce médicament-là tôt, dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes, on va avoir une excellente protection contre le développement d'une maladie grave.
Je voyais les études Pfizer, on parle de quoi? 70 % de réduction des risques d'hospitalisation?
Non, ça va jusqu'à 87 à 89 %.
De réduction des hospitalisations.
De réduction d'avoir une maladie grave.
Oh, OK. Donc, c'est considérable.
Oui, d'hospitalisation et de décès.
Et là, on comprend qu'on va être quand même en nombre restreint, ce qui veut dire qu'on pourra pas, mais c'est un médicament en plus très dispendieux, de plusieurs centaines de dollars par capsule, on pourra pas le donner à tous les gens qui vont tester positif. Comment on va établir cette grille-là? Parce que, bon, je pense qu'il y a bien des gens, même les gens qui sont peu à risque, mais un petit peu à risque, ou qui ont un des facteurs de risque, ils diraient, ben moi, par sécurité, j'aimerais bien ça l'avoir. Comment on va déterminer qui le reçoit?
Ben, il y en a tellement peu de disponibles que c'est les autorités gouvernementales qui vont définir c'est quoi les meilleures conditions. Au Québec, habituellement, c'est l'INES qui fait ça. Ils nous donnent des guides sur comment utiliser les médicaments plus rares, puis les médicaments... vous dites que c'est coûteux, mais comparativement à une hospitalisation...
Non, je comprends.
Une hospitalisation aux soins intensifs, c'est une pilote.
Non, vous avez totalement raison.
C'est vrai que c'est pas donné, là, on s'entend. Donc, il va falloir avoir des critères très précis. Et puis, on va les réserver aux gens qui risquent le plus d'en bénéficier. Si on est bien vacciné avec 3 doses, notre 3e dose, on a le même niveau de protection, à peu près de l'ordre de 80 quelques %, de pas faire de maladies graves et d'être hospitalisé. Donc, on va dans un premier temps les réserver à des gens qui ne répondent pas bien au vaccin, aux gens très malades, avec beaucoup de maladies concomitantes. On appelle ça des comorbidités, des gens immunosupprimés, qui ont des cancers, des choses comme ça. Et puis, on va les réserver à ces gens-là, parce que c'est là où ça va avoir le plus d'impact. Parce que présentement, les patients qu'on voit aux soins intensifs, c'est soit des gens non vaccinés ou des gens justement immunocompromis avec des maladies graves. Alors, si on peut prévenir ça, on va faire un bien-être à eux en particulier, puis à la société en dégageant les hôpitaux un petit peu.
Docteur Tremblay, je veux pas être celui qui met le trouble dans la cour d'école, mais je suis convaincu que la question va venir, que la discussion va venir. On vous donne, vous, à faire l'évaluation, là, bâtir une grille, là, qui doit le recevoir. Vous venez de me donner des critères clairs, là, des personnes plus âgées, immunosupprimées, qui ont eu de la chimio, des choses comme ça. Bon, mais dans la liste, Évidemment, les personnes non vaccinées, c'est un facteur de risque important. Là. Ça fait partie des 3-4 facteurs de risque peut-être les plus importants. Est-ce que les non-vaccinés vont arriver en priorité? Parce que j'entends tout de suite des gens qui vont chialer, qui vont dire, ben là, c'est pas vrai, là, ils sont pas fait. Ils ont, le vaccin qui coûtait pas cher puis qui était simple à aller chercher, ils ont craché dessus. Puis là, on va leur donner une pilule à 700$ parce qu'ils viennent d'attraper la COVID. C'est sûr qu'il va y avoir des réactions.
Non, je pense pas qu'il va y avoir une question de priorité avec les gens non-vaccinés. La priorité va être à ceux qui sont le plus à risque de faire une maladie grave. Donc, même parmi les non-vaccinés, les gens qui ont des... Parmi ceux-là, il y a des gens qui ont des grosses comorbidités, il y a des gens qui sont très âgés et il y a des gens qui sont immunosupprimés aussi. Alors, ça va être les mêmes critères pour tout le monde là, qui vont s'appliquer.
Donc, le critère d'être non-vacciné ne sera pas ajouté comme un critère de plus qui augmente le risque, donc qui augmente la pertinence de fournir le médicament.
Écoutez, moi, c'est pas moi qui élabore les critères. Ça va être des organismes comme l'INES, probablement au Québec, et puis l'Agence de santé publique du Canada ou Santé Canada au niveau fédéral. Alors, ils vont arriver avec un algorithme qui va faire en sorte que l'on ne va pas gaspiller ces médicaments-là, qu'on va vraiment les donner à ceux qui pour qui ça va faire une différence et que ça va empêcher de rendre à l'hôpital. Parce qu'oubliez pas que un des objectifs, c'est de empêcher l'encombrement des hôpitaux que l'on a. Donc, on veut empêcher n'importe qui d'être hospitalisé. Parce que quand quelqu'un est hospitalisé, qu'il soit vacciné ou pas vacciné, il nuit à tout le monde. Là.
Il prend un lit, on se comprend.
Finalement, d'avoir des lits pour des gens qui ont besoin d'une opération, etc. Ça fait qu'il y a un objectif collectif en premier lieu à considérer, essayer d'empêcher le nombre d'hospitalisations excessives. Puis donc, en ce sens-là, ce critère-là devient aussi un critère à considérer.
Est-ce que c'est un médicament qui a des effets secondaires? En d'autres termes, est-ce qu'on le donne là, aux gens qui en ont besoin en fonction des critères que vous venez de décrire? Est-ce qu'on le donne avec l'esprit tranquille en disant, mais regarde, là, il n'y a pas d'effet secondaire puis on prévient la COVID? Ou il faut penser, je sais pas, interaction avec d'autres médicaments? Est-ce que c'est un médicament qui peut avoir aider une majorité, là, mais avoir un effet indésirable pour quelques-uns?
Moi, en fait, il y a pas d'effet indésirable très grave, mais il peut causer des petits inconforts digestifs et des choses comme ça. Cependant, il y a une considération importante, c'est qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec certains médicaments que l'on connaît bien là, au niveau médical et avec des produits naturels. Alors, c'est certainement pas un médicament qu'on va donner à droite et à gauche. Il va falloir que le médecin prescrive le médicament en connaissant fort bien quel autre médicament la personne prend, si elle prend des produits en pharmacie là sur produits naturels ou autres, parce qu'il peut y avoir des interactions et donc ça pourrait être néfaste. Alors, c'est pas nécessairement une pilule là, comme ça là, qu'on distribuerait dans l'eau courante.
Je comprends très bien. Mon dernier chapitre de questions, c'est les tests. Parce que présentement, les tests PCR sont réservés à un groupe restreint. Les gens qui travaillent dans le réseau de la santé, là, on ajoute les enseignants depuis hier, etc. Comment on va déterminer ces personnes-là? Est-ce qu'on va se fier à leurs paroles? Ils vont dire, mettons, quelqu'un va se présenter, je sais pas où, à l'hôpital ou chez un médecin, dire, ben moi, je me suis fait un test rapide chez nous là ce matin, là, et puis ça a testé positif. Est-ce qu'on va prendre sa parole ou est-ce qu'on va faire un PCR spécifique pour ceux à qui on est susceptible de donner? Parce que dans l'ancien système où on testait tout le monde, là, j'aurais dit ça allait très bien. Mais dans le nouveau système, je suis pas certain de voir comment ça va s'appliquer.
Hein. Ouais, ben vous avez raison. Ce sont des questions qui se posent à tout le monde. En fait, c'est clairement les gens qui pourraient bénéficier de ces médicaments-là vont devoir être testés. Est-ce qu'un test rapide va être suffisant versus un test PCR? Il y a des conditions qu'il va falloir considérer dans la région en question. Est-ce que c'est long d'avoir le résultat d'un test PCR ou pas? Parce qu'on se rappelle que ce médicament-là,
faut le
prendre dans les 5 premiers jours hein, de l'apparition des symptômes. Dans certains endroits, à l'hôpital, par exemple chez nous, on peut avoir le résultat très rapidement, mais c'est pas partout. Alors, il va y avoir des dans les, la grille d'utilisation de ces médicaments-là. On va donner des instructions précises et puis on va préciser quel type de test on va se fier. Mais je rappelle que quelqu'un qui est symptomatique, les tests rapides antigéniques sont assez fiables quand ils nous donnent un positif.
OK. Mais ça reste un enjeu, là. C'est-à-dire, parce que dans les vagues précédentes, on aurait eu tout ce qu'il faut, dans le fond. On avait, oui. Les gens faisaient un test PCR, la santé publique suivait le cas, les rappelait. Donc là, ça aurait été assez facile de dire, ben là, vous êtes une personne de tel âge, vous avez eu telle maladie, etc. Et là, de se rendre compte, là, que ce serait une personne à qui prescrire le médicament en question. Mais je trouve que dans notre nouveau système où les gens sont un peu laissés à eux-mêmes, il va falloir faire un appel. Il va falloir trouver une façon que soit que les gens se reconnaissent eux-mêmes, là, ceux qui sont plus susceptibles d'avoir besoin de ce médicament-là. Puis, il y a, moi, je, personnellement, j'y vois un flou là, qu'il va falloir travailler.
Vous avez raison. Il va falloir travailler tous ces aspects-là. Ce qui va être fait très rapidement. Il y a déjà des comités à l'INES qui se penchent là-dessus. Donc, très, très prochainement, on va avoir un guide sur comment procéder et puis on va être bien sûr que les gens qui peuvent en bénéficier soient avisés de la chose et surtout que les médecins de ces gens-là aient bien les consignes sur comment procéder parce que dans le fond, là, ça va être la relation patient-médecin là, qui va jouer beaucoup nos immunocompromis, nos patients qui sont sous médication là, qui peut baisser l'immunité puis tout ça, on les connaît bien. Alors, donc, il va falloir bien arrimer les choses. Mais je suis d'accord avec vous, il reste des lignes directrices à établir. Et puis, en général, on réussit à bien faire ça, là, à s'assurer que les conditions sont bien mises en place. L'avantage, c'est que ça s'administre à la maison. Là, c'est des pilules qu'on peut prendre à la maison. Donc, on n'a pas besoin d'être hospitalisé. Alors, ça, c'est une bonne chose, là, comparativement aux autres médicaments que l'on a présentement contre la COVID.
Dr. Tremblay, merci d'avoir été avec nous.
Au revoir. Plaisir.